Peut-être pensez-vous qu'une fois marié, le couple est solide comme un roc et qu'il est inutile d'y passer trop de temps. C'est vraiment ce que je vous souhaite, mais croyez-moi, c'est difficile. Est-ce que je suis pessimiste ? Non, réaliste. Nos vies quotidiennes sont remplies d'activités et de passions qui peuvent faire courir de grands risques aux amoureux. Nous nous appelons Aurélie et Joseph, et après une première saison consacrée à la préparation au mariage, nous sommes ravis de vous accueillir dans la saison 2 du podcast « Se marier et durer » consacré à la vie des vrais couples.
Dans ce podcast, nous rencontrons le père Pierre-Marie Castaignos, serviteur de Jésus et de Marie et accompagnateur de couples depuis plus de 20 ans, pour aborder les sujets qui peuvent fragiliser ou consolider l'amour. Cette mini-série aborde la vie professionnelle. Avec plus de 40 années passées à travailler, c'est l'essentiel de la vie du couple qui est rythmé autour d'elle. Dans ce troisième et dernier épisode consacré à la vie professionnelle, nous avons voulu aborder les risques particuliers que celle-ci peut faire peser sur le couple, et surtout, proposer des outils pour qu'ils ne viennent pas casser l'amour des conjoints. Bonne écoute.
Bonjour mon père.
Bonjour Joseph, bonjour Aurélie.
Pour cette troisième partie du podcast sur la vie professionnelle, nous aimerions aborder du coup le thème du risque, en vous posant des questions, des exemples très concrets en fait. La question générale étant, lorsque la vie professionnelle choisie fait porter un risque sur le couple et sur la famille, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quels sont les outils pour répondre à ces problèmes ?
Alors, c'est vrai que surtout qu'il y a des professions qui sont, je veux dire, plus à risque que d'autres. Ça aussi, c'est important de je pense par exemple à des métiers vocation. Des métiers vocation typiquement soignants, des métiers de tout ce qui est autour de l'aide, par exemple, les métiers qui sont dans une qui inscrit la personne dans une relation d'aide. Bon, évidemment, le soin, l'enseignement, la sécurité avec les forces de l'ordre et l'armée, qui fait que ces métiers-là. Ou des métiers, je pense à d'autres choses, des métiers qui impliquent des loyautés. Alors peut-être, je ne sais pas si on abordera ça, mais on l'avait, il me semble, abordé dans la première saison de ce podcast, la question des loyautés, je vous y renvoie, mais je pense, par exemple, reprendre une entreprise familiale, reprendre une exploitation agricole familiale, etc., qui fait qu'il y a une charge par rapport à mon travail qui est plus que d'avoir un revenu ou une reconnaissance, etc. C'est la question des de se dire que quand on est dans ce genre de métier, il y a déjà, j'allais dire, de base un warning, ou dans ce genre de situation, hein, au niveau des loyautés et des reprises d'entreprises familiales, il y a déjà se poser la question de dire, potentiellement, il y a un risque qui peut être fait. Je veux davantage être dans le soin de l'autre que dans le soin de moi-même ou dans le soin de mon conjoint. Donc de dire que ce risque-là, il est plus grand. Je pense par exemple au burn-out. Le burn-out, ça s'inscrit dans des métiers comme ça. Je n'arrive pas, parce que si vous voulez, c'est des métiers où vous pouvez jamais dire vous avez fini. Parce qu'un agriculteur, par exemple, il n'a jamais fini sa journée. Et quand vous êtes dans le soin, si vous êtes un médecin, etc., vous pouvez toujours ouvrir votre cabinet, vous aurez toujours du monde. Et puis, vous n'arriverez jamais à ce que tout le monde sur la planète soit soigné, etc. Donc, il y a une idée de sans fin. Il y a une sorte de vie sans fin. On se met. Donc, se dire soi-même, est-ce qu'on est au clair sur le fait que on. Vous savez, le triangle, je rappelle le triangle de Cartman, avec sauveur, victime, bourreau. C'est ce qu'on appelle le triangle de Cartman, ce qu'on appelle aussi le triangle dramatique. C'est-à-dire qui sont trois positions qui sont toxiques et qui sont toxiques aussi dans le monde professionnel. Est-ce que je me mets dans une position de sauveur avec un risque d'épuisement, et qu'une fois que je suis épuisé, parce que le burn-out, c'est ça, c'est qu'on a épuisé, ça vient de l'aérospatial, hein, cette notion de burn-out, où quand les réservoirs de kérosène des fusées sont épuisés, on dit burn-out, donc on les lâche, voilà, on n'a plus d'énergie, on tourne, on n'a plus de batterie, etc. Donc est-ce que je prends conscience que cet épuisement, je le vois venir, et l'autre, je trouve le couple est au service aussi de ça, en me disant, écoute, tu es plus fatigué, tu es davantage irascible, etc. Je vois l'autre comme un miroir aussi. Donc attention à occuper une place entre bourreau, victime et puis sauveur, qui n'est pas au fond appropriée.
Est-ce que le burn-out arrive dans des cadres de couples familiaux et professionnels très spécifiques ?
Alors, on a parlé des relations d'aide. C'est sûr, les métiers qui sont en lien avec la relation d'aide, les métiers vocation, ce sont des métiers, ce qu'on appelle aussi la dérive sacerdotale, mais qui peuvent toucher les prêtres. Les prêtres peuvent être aussi dans un burn-out, parce que là aussi, par définition, on n'a jamais fini d'annoncer la bonne nouvelle. Oui, mais de façon plus large, c'est qu'on s'est mis soi-même, alors j'ai dit des métiers à risque, mais il y a ou des situations de reprise de loyauté, etc., par rapport aux familles et qui sont à risque. Pour moi, ça c'est quand je prépare au mariage et que je vois un couple qui, par exemple, veut reprendre l'exploitation agricole, veut travailler ensemble, je ne sais pas si on aura l'occasion, travailler ensemble dans la même structure. Ça se discerne. C'est loin d'être évident. Et j'ai dû mettre fin, par exemple, je vous le dis, mais ça m'a causé beaucoup de tristesse, mais fin à une préparation au mariage parce qu'ils s'étaient lancés dans un projet hôtelier à deux, mais finalement, ils décalaient à chaque fois nos rencontres de préparation au mariage. Donc j'ai dit, écoutez, moi, si le mariage n'est plus votre priorité, moi je n'ai rien à faire avec vous. Donc je pense que oui, ça peut se donner, mais je veux dire, ça peut se donner dans qu'on ne met pas, on n'accepte pas la limite. Je crois que ça a à voir avec la question de la limite, ça a à voir avec la question de la. Tant qu'on rentre dans une des positions de ce fameux triangle qui propose des positions toxiques, il y a un risque de burn-out. Parce que forcément, mais dès que je sors d'une forme de toute-puissance, d'ailleurs, ça, il y a une toute-puissance. Je me mets dans une toute-puissance, mais une toute-puissance qui m'épuise. Et en plus, après, je n'ai plus les moyens de ma toute-puissance. Quoi.
Mais alors, une fois que le burn-out est arrivé, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, je pense que ça peut être la grande chance pour le couple. Ça peut être une grande chance pour le couple. On a parlé du. Et c'est là aussi que notre regard chrétien. Bienheureuse faute qui nous valut un tel sauveur, hein, vous vous rappelez cette parole qu'on prononce la nuit de Pâques, peut-être bienheureux burn-out qui nous a fallu, permis aussi, qui nous a valu peut-être de nous repositionner et de nous redire qu'est-ce qui est vraiment important dans notre vie, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est au centre de notre vie. Donc, je crois que quand on vit ça dans sa vie personnelle et sa vie professionnelle, ça ne peut pas ne pas interroger nos manières de fonctionner. Ça ne peut pas ne pas interroger peut-être l'orgueil qui est mal placé, peut-être la toute-puissance. Ça ne peut pas interroger j'ai pensé que je te plaisais, plus j'en faisais, plus je te plaisais, par exemple. Donc là, on a quelque chose complètement dysfonctionnel au niveau du couple. Ben non, pas du tout. Si tu avais fait moins, tu m'aurais autant plus. Voilà, on se met dans la tête. Du coup, quand ça arrive, je me dis, tiens, est-ce que... Parce que c'est parfois très violent, on a physiquement, la personne n'a plus d'énergie, peut même plus se lever le matin, ça peut aller jusque-là. Est-ce que le couple peut être plus pauvre ? En fait, moi, j'aime bien cette définition du couple, c'est l'union de deux pauvres. Et il est mis dans une situation de pauvreté. Et cette situation de pauvreté, quand on est dans une dimension spirituelle, mais voilà, pauvreté, source de richesse. C'est-à-dire vraiment, c'est cette pauvreté, cette vulnérabilité dans laquelle je suis. Je ne suis plus. J'ai voulu peut-être te démontrer quelque chose où je me suis figuré que en plaisant, en faisant, j'allais plaire à ma. On agit toujours sous une condition de bien. On veut toujours quelque chose pour un bien, même si ce n'est pas un vrai bien, peut-être on se trompe de bien, c'est des faux biens, etc. Mais on agit toujours en recherchant un bien. Donc la personne, là, elle peut plus tricher, elle ne peut plus jouer, elle ne peut plus... Le corps dit stop. Et quand le corps dit stop, le couple s'interroge, dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Et je me dis, bienheureux, peut-être burn-out, ça va être la grande chance du couple de se ressaisir et de mettre les fondamentaux au centre.
Peut-être pour venir sur la notion de fragilité. Lorsque le couple est déjà fragilisé, comment faire pour que le travail ne devienne pas une fuite ? Porte de sortie facile, on en parlait tout à l'heure, surtout quand on est valorisé sur son lieu de travail.
Alors,
plus qu'à la maison.
C'est plus qu'à la maison, oui. Oui, c'est ça. C'est qu'on est plus, on trouve plus d'auto-estime dans le travail qu'à la maison. Et le couple est déjà un peu château branlant, entre guillemets. Il est un peu dans... Eh bien, c'est de se dire qu'on rentre dans une zone de turbulence et objectivement de risque et de risque de séparation. Je pense qu'il faut, il faut dire les choses, c'est que comme nous sommes partis, mais c'est d'où l'importance de se poser. Moi, j'invite mais vraiment une retraite par an, une retraite spirituelle par an. Pour moi, c'est salvateur. Pour moi, ça, c'est même pas un sujet. C'est même pas une option. C'est on prend un temps, on s'arrête un week-end face au Seigneur et on relit sa vie de couple. Et on se dit, tiens, notre couple, il est, on se le dit l'un à l'autre, il est château branlant, il est fragile, il est brinque-ballant alors qu'on a 5, 6, 10 ans de vie matrimoniale, il est brinque-ballant. Voilà. Et c'est vrai que si j'ai plus de... la nature ayant horreur du vide, si j'ai plus de valorisation à l'extérieur et surtout avec des personnes de l'autre sexe qui sont à l'extérieur, évidemment, il y a un warning qui s'allume très, très clairement. Quoi.
Alors, quels sont les signaux faibles qui concrètement peuvent aider le couple à se rendre compte qu'en fait, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et que le travail devient une fuite?
Alors, c'est que je ne mets pas la question des frontières. La question des frontières, c'est-à-dire que je repousse toujours les frontières. Je pense, par exemple, le rapport aux écrans. On n'a peut-être pas trop abordé ça, mais avec le télétravail, etc., il y a une porosité des frontières entre vie de couple et vie professionnelle. Donc, toujours, je repousse la frontière et je n'accepte pas, du coup, la question du repos. Je ne prends plus de repos ou je ne prends plus de repos à d'autres, avec d'autres. Et du coup, pendant les vacances, je n'arrive pas à m'arrêter. Et je consulte mes mails et je réponds à mes mails, etc. Ce qui fait qu'on se dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de déraper dans notre vie. On n'a plus vraiment de vie personnelle, on n'a plus vraiment de vie à deux. Je sens que tu as une notification d'un mail, c'est prioritaire sur notre temps d'échange. Là, ça, c'est un signe faible. Ça, c'est un signe qui fait dire, moi, est-ce que vous avez, pour contredire ça, est-ce que vous avez un lieu où vous éteignez vos portables et vous dites, c'est pas ce petit portable insupportable qui va avoir le premier mot. Non, c'est nous, on le met à sa place parce que c'est entre nous les mots qu'on s'échange, c'est ça qui est important. Donc, je pense que ces signaux faibles, c'est ça, c'est repousser les frontières. Et qui fait que le couple progressivement prend de moins en moins de place. Encore une fois, il n'y a pas eu de parole dite. Il n'y a pas eu de parole dite. Je n'ai pas dit à l'autre comment est-ce que ça s'est fait. D'où l'importance de la retraite aussi. Moi, je suis tellement... je vous encourage tellement à prendre ces moments-là de week-end, vraiment de retraite spirituelle, etc. Parce que du coup, vous vous apercevez, par rapport à ce qu'on a... On s'était dit à notre projet de couple, qu'on s'était dit peut-être dans notre préparation au mariage, on s'était dit au moment de nos premières années, etc. Où est-ce qu'on en est maintenant? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'en termes de temps consacré, la question de la gestion du temps, évidemment, est centrale. Est-ce qu'en termes de temps consacré, on est au rendez-vous ou pas? Ou est-ce que je sens qu'il y a une... Voilà, je n'existe que par l'autre, quoi.
Peut-être pour aborder la notion de célibat géographique. Grand sujet. Les employeurs valorisent de plus en plus les carrières très dynamiques, de préférence internationale. Et ça peut impliquer que dans certains cas, il y ait des situations de célibat géographique. Donc comment est-ce qu'on peut gérer cela au mieux, en fait?
Alors, célibat géographique qui peut être temporaire, parce que je pense par exemple à des militaires, par exemple, je me rappelle comme ça, l'épouse d'un militaire, qui avec les OPEX sont de plus en plus sollicités, en tout cas l'armée française, pour aller à l'étranger, se déplacer dans le cadre de l'ONU ou dans le cadre d'opérations directement de l'armée française, qui fait que du coup 4, 5, 6 mois, etc. C'est célibat géographique, mais ça peut être aussi des styles, par exemple ceux qui travaillent dans tout ce qui est lié aux avions, que ce soit les pilotes, mais que ce soit les stewards, que ce soit les hôtesses de l'air, etc. C'est 3-4 jours en service et 3-4 jours à la maison. C'est-à-dire, comment je fais pour gérer des rythmes, c'est-à-dire qui ne sont pas habituels dans une vie de couple. Alors, je crois que, premièrement, il y a des métiers, on sait très bien que ça va être comme ça. Donc, quand on s'engage avec la personne, et donc il y a un discernement en amont, et on a vu ça dans la première saison de Se marier et durer, il y a un discernement en amont. Et voilà, c'est sûr que si je veux une carrière à l'international, ce n'est pas avec un agriculteur que je dois me marier, par exemple. Ça sera plus compliqué de gérer une carrière. Si je veux, au contraire, une grande stabilité, le militaire, je sais très bien qu'il change déjà à l'intérieur de l'Hexagone, il change tous les 3 ans, et puis il est envoyé en mission 3-4 mois par-ci, par-là, etc. Donc, voilà. Maintenant, quand c'est quelque chose qui s'établit en dehors des métiers particuliers, quand c'est quelque chose qui s'établit de façon pérenne, je me souviens comme ça d'un couple où carrément il se voyait que les week-ends et les vacances. Alors que c'était un travail qui était lié dans une entreprise assez, assez classique. Ce n'était pas un travail particulier. Je pense qu'il était directeur commercial, etc. Mais il ne voulait pas faire des allers-retours. Etc. Mais je me dis, évidemment, les risques d'infidélité sont au rendez-vous. Ça me paraît évident. Parce que l'autre, c'est sûr que vous avez fait une vocation, vous avez opté pour une vocation matrimoniale, pas pour une vocation monastique. Donc, les unions, l'union entre dans le couple, etc., qui n'est plus au rendez-vous qu'épisodiquement. Et, le risque qu'il y ait une certaine colère de la part de l'autre, c'est-à-dire de celui qui subit le célibat géographique, qui fait que ça n'a pas été vraiment discerné, ça n'a pas vraiment été choisi. Ou alors, c'est une fuite, et quelque part, ça m'arrange bien, parce qu'on a du mal, on s'engueule beaucoup. Quelque part, que tu sois loin, ça m'arrange bien. Vous voyez, c'est parfois, il faut être trop clair, est-ce que ce célibat m'arrange, ou est-ce qu'au fond, ce célibat est géographique. Mais je crois que le risque, évidemment, par rapport au fait d'être parent et de ne pas voir grandir ses enfants est majeur. Hein. Donc, en revanche, quand c'est un métier, je trouve que c'est différent, quand c'est un métier où, de la nature du métier, il y a ce célibat, il faut beaucoup compter sur l'autre, pour celui qui est plus stable, en tout cas, pour qu'il rende présent la personne, le parent qui est absent. Mais là, on rentre dans la partie parentalité, donc, mais savoir avec conjugalité. C'est-à-dire, ça a un lien, forcément. Donc, je me souviens comme ça d'une épouse de militaire. Par exemple, elle me dit, papa, tu sais, il est là, il est parti de là. Du coup, c'est elle qui rend présent, qui représente le père aux côtés de l'enfant, qui fait que quand, pour les grandes décisions, on va en parler à papa, etc., etc., etc. Donc, c'est ce qui fait que l'autre n'a jamais été vraiment loin dans la tête de l'enfant et dans la tête du conjoint. Il n'a jamais été vraiment loin parce que, déjà, avec les moyens de communication qu'on a, ça offre beaucoup plus de capacité de relation. Mais aussi, symboliquement, il a été toujours présent à la maison parce que le conjoint qui est resté l'a rendu présent.
Peut-être pour terminer cette mini-série de 3 épisodes, on pourrait aborder des milliards de sujets, mais il faut prioriser. Essayer d'ouvrir un petit peu. Donc il y a l'impact de la vie professionnelle sur le couple en tant que tel, mais on sait bien que le couple n'est pas tout seul. Le couple est au milieu d'une galaxie, d'une constellation de personnes, notamment de la famille. Et aujourd'hui, le travail a beaucoup évolué ces derniers temps. Donc, on sait que la pression, l'intensité, le stress sont beaucoup plus forts que ce qui pouvait être il y a quelques décennies. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est que s'il y a beaucoup de couples dans lesquels la femme ne travaillait pas, tout simplement jusqu'aux années 70, aujourd'hui, très peu de couples peuvent en réalité se le permettre, ne serait-ce que matériellement. Donc, évidemment, avec tout ça en compte, ça peut être très difficile d'arriver à garder une disponibilité et un temps pour les autres personnes de la famille. Mais comment faire pour que, au sens large, la vie professionnelle ne contribue pas à l'éclatement complet des cellules familiales au sens large ?
Alors, moi, je dirais, quels sont vos rituels familiaux ? Quels sont, ma réponse à ça, c'est de façon positive. Qu'est-ce que je mets comme ces fameux grosses pierres, ces rituels familiaux traditionnellement, Noël, c'est un rituel familial. Mais il peut y avoir, souvent, c'est une semaine de... Qu'est-ce que je prends comme temps qui va être fondateur, qui va être un temps source, un temps ressource, et duquel je ne vais pas déroger. Oui, c'est ça la question, c'est auquel je vais m'attacher, parce que, et pour pas que justement il y ait une forme d'une certaine... La question, et puis derrière ça, est-ce que j'ai la volonté d'être en contact avec l'autre ? Parce qu'on peut très bien accuser le travail, le stress, le rythme, etc., nos vies surchargées, etc., mais finalement on choisit. Est-ce que je choisis la relation ? Est-ce que je choisis de valoriser les relations familiales, par exemple, même si, et donc je peux prendre des nouvelles, je peux en donner. On voit par exemple des groupes familiaux au WhatsApp, etc., qui permettent de garder le lien. Est-ce que je souhaite les anniversaires, qui est un rituel familial, par exemple. Est-ce que je prends des nouvelles. Est-ce que je suis fédérateur dans ma famille et donc ça fait que j'organise des choses. Écoutez, j'aimerais bien vous inviter, ceux qui sont disponibles pour tel. Vous voyez, je pense que c'est... N'accusons pas les autres parfois d'un manque de décision personnelle. On ne subit pas, on ne fait pas que subir sa vie, c'est pas vrai. Même la vie professionnelle, on la subit pas, on la choisit. Donc c'est aussi une note d'espérance que je veux terminer peut-être ce podcast et de se dire finalement on a souvent le choix, pour pas dire toujours le choix, en matière professionnelle et surtout en qualité de lien, ne serait-ce qu'en le fixant comme un cap que l'on veut tenir et vers lequel on veut aller.
Merci beaucoup, mon père.
Un grand merci à vous deux.
L'épisode que vous venez d'entendre fait partie d'un podcast consacré au couple et au mariage. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il est disponible gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Quant à nous vous retrouvons sans plus attendre dans une autre mini-série consacrée à la colère ou dans le parcours de préparation au mariage proposé dans la première saison. À très vite.